Chapitre 10. La grande partie de chasse. Dès que le docteur a quitté la station-service, je suis allé dans le bureau. J'ai pris la pancarte qui indiquait « Désolé, c'est fermé » et je l'ai accrochée à l'une des pompes. Puis je suis allé droit à la roulotte. J'étais trop fatigué pour me déshabiller. Je n'ai même pas enlevé mes vieilles baskets sales. Je me suis simplement laissé tomber sur ma couchette et je me suis endormi. Il était 8h05 du matin. Plus de 10 heures plus tard, à 6h30 du soir, j'ai été réveillé par les infirmiers de l'ambulance qui ramenaient mon père de l'hôpital. Ils l'ont porté dans la roulotte et l'ont allongé sur la couchette du bas. « Salut, papa !» j'ai dit. « Salut, Danny. Comment tu te sens ?»« Un peu dans les nuages, » m'a-t-il répondu, et il s'est endormi presque immédiatement. Alors que l'ambulance repartait, le docteur Spencer est arrivé et il est monté dans la roulotte pour examiner le patient. « Il va dormir jusqu'à demain matin, » m'a-t-il dit. « Et quand il se réveillera, il se sentira très bien. » J'ai suivi le docteur jusqu'à sa voiture. « Si vous saviez ce que je suis content qu'il soit revenu, » lui ai-je dit. Le docteur a ouvert la portière, mais il n'est pas monté dans la voiture. Il m'a regardé d'un air sévère et m'a demandé « Depuis quand n'as-tu pas mangé, Danny ?»«
Manger ?
Soudain, je me suis rendu compte que je n'avais rien mangé depuis le dîner de la veille avec mon père. Cela faisait presque 24 heures. Le docteur Spencer s'est alors penché dans sa voiture et en a sorti quelque chose de rond et de très gros, emballé dans du papier sulfurisé.
« Ma femme m'a demandé de t'apporter ça » a-t-il dit. « Je crois que ça va te plaire. C'est une cuisinière fantastique !»
Il m'a tendu le paquet, puis il a sauté dans sa voiture et s'est éloigné très vite. Je suis resté là, tenant bien serré dans mes mains le paquet rond. J'ai regardé la voiture du docteur disparaître derrière un tournant et, alors même que je ne la voyais plus, je suis resté là, à contempler la route déserte. Au bout d'un moment, j'ai tourné les talons et j'ai remonté les marches de la roulotte avec mon précieux paquet. Je l'ai posé au milieu de la table, mais je ne l'ai pas déballé. Mon père, allongé sur la couchette, dormait profondément. Il portait un pyjama de l'hôpital avec des rayures marron et bleu. Je me suis approché de lui et j'ai soulevé doucement la couverture pour voir ce qu'il lui avait fait. Un plâtre blanc et dur couvrait la partie inférieure de sa jambe et l'intégralité de son pied, à part les orteils. Il y avait une drôle de petite chose en fer qui dépassait sous son pied. C'était sans doute pour qu'il puisse marcher dessus. J'ai remis la couverture en place et je suis retourné devant la table. Avec beaucoup de précautions, j'ai commencé à enlever le papier sulfurisé qui enveloppait le cadeau du docteur et, quand j'ai eu fini, j'ai vu devant moi la plus belle, la plus énorme tourte du monde. Elle était recouverte sur toute sa surface, au-dessus, sur les côtés, au-dessous, d'une pâte épaisse et dorée. J'ai pris un couteau à côté de l'évier et j'en ai coupé une part. J'ai commencé à manger avec les doigts en restant debout. C'était une tourte à la viande. Une viande rose et tendre, sans gras et sans nerfs. Et il y avait dedans des morceaux d'œufs durs cachés en divers endroits, comme des petits trésors. Elle était absolument délicieuse. Après avoir fini la première part, j'en ai coupé une autre. Et je l'ai mangée aussi. « Que Dieu bénisse le docteur Spencer, » j'ai pensé. « Et Dieu bénisse aussi Mrs. Spencer. » Le lendemain matin, lundi, mon père s'est levé à 6 heures.
« Je me sens très bien, » m'a-t-il dit.
Il a commencé à boitiller autour de la roulotte pour voir comment allait sa jambe.
« J'ai presque plus mal, » s'est-il écrié. « Je vais pouvoir t'accompagner à l'école. »« Non, » j'ai dit. « Non !»«
Je l'ai toujours fait, Danny, sans manquer un seul jour. »
« Il y a plus de 3 kilomètres dans chaque sens. »« Pas aujourd'hui, papa, s'il te plaît. »
Et ce jour-là, je suis donc allé à l'école, tout seul. Mais il a insisté pour m'accompagner le lendemain. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Il avait mis une chaussette de laine par-dessus son plâtre pour garder ses orteils au chaud, et il avait fait un trou dans la chaussette pour laisser passer la chose en métal qui lui permettait de marcher. Sa jambe était un peu raide, mais il avançait aussi vite que possible, le métal tintant sur la route à chaque pas. Schklang, schklang. Et ainsi, la station-service reprit sa vie normale, ou en tout cas presque normale. Je dis presque parce que les choses n'étaient pas tout à fait comme avant. La différence, c'était mon père. Il y avait eu un changement en lui. Pas un grand changement, mais suffisant pour me donner la certitude que quelque chose le tracassait profondément. Il passait beaucoup de temps à ruminer, et il y avait des silences entre nous, surtout pendant les dîners. Parfois, je le voyais debout, immobile, devant la station-service, observant la route en direction des bois de Hazel. Souvent, je voulais lui demander pourquoi il était comme ça, et si je lui avais posé la question, je suis sûr qu'il m'aurait tout de suite répondu. Mais de toute façon, je savais que tôt ou tard, il finirait par m'en parler. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Environ 10 jours après son retour de l'hôpital, nous étions assis tous les deux sur la plateforme de la roulotte à regarder le soleil descendre derrière les grands arbres, au sommet de la colline qui s'élevait de l'autre côté de la vallée. Nous avions dîné, mais ce n'était pas encore l'heure de me coucher. Cette soirée de septembre était chaude, belle et calme. « Tu sais ce qui me met tellement en colère ?» m'a brusquement dit mon père. « Le matin, quand je me lève, je me sens très bien. Et puis vers 9h, chaque jour de la semaine, cet énorme Rolls-Royce argenté passe à toute allure devant la station-service. Et je vois la grosse tête enflée de Victor Hazel derrière le volant. Je la vois toujours. J'y peux rien. Et quand il passe, il se tourne toujours vers moi et me regarde. Et c'est la façon dont il me regarde qui m'est insupportable. Je vois sa bouche ricaner sous son nez, avec un petit air hautain. Et même si je l'aperçois que 3 secondes, ça me rend fou de rage. Et en plus, je passe le reste de la journée à être furieux. « Je te comprends », lui ai-je dit. Un silence s'est installé. J'ai attendu de voir ce qui allait se passer. Puis enfin, il a poursuivi. « Je vais t'annoncer quelque chose d'intéressant. La saison de la chasse aux faisans commence samedi. Tu savais ça ?»«
Non, papa. » »«
Elle commence toujours le 1er octobre. Et chaque année, Mister Hazel en profite pour organiser une grande partie de chasse. » Je me demandais quel rapport il y avait avec la fureur de mon père, mais j'étais certain qu'une relation existait quelque part. C'est un événement bien connu, Danny, la partie de chasse de Mister Hazel. Il y a beaucoup de gens qui y vont ? Des centaines. Ils viennent de kilomètres à la ronde, des ducs, des lords, des barons, des baronnets, des riches hommes d'affaires et tous les gens élégants du comté. Ils viennent avec leurs fusils, leurs chiens, leurs femmes. Et toute la journée, on entend le bruit des coups de feu résonner dans la vallée. Mais ils ne viennent pas par amitié pour Mister Hazel. En secret, ils le méprisent tous. Ils pensent que c'est un sale bonhomme.
Alors pourquoi ils y vont, papa ?
Parce que c'est la meilleure chasse aux faisans du sud de l'Angleterre. Voilà la raison. Et pour Mister Hazel, c'est le plus grand jour de l'année. Il est prêt à payer n'importe quoi ou presque pour que la fête soit réussie. Il dépense une fortune pour se procurer ses faisans. Chaque année, il achète des centaines de jeunes oiseaux dans un élevage. Et il les relâche dans les bois où les gardes-chasse leur donnent à manger, les surveillent et les engraissent pour qu'ils soient prêts quand viendra le grand jour. Est-ce que tu sais, Danny, qu'élever et surveiller un seul faisan jusqu'au jour où il est prêt à se faire tirer dessus coûte le même prix que 100 miches de pain ?
Ce n'est pas vrai.
Je te jure que si, a affirmé mon père. Mais Mister Hazel ne regrette pas un penny de ce qu'il dépense. Et tu sais pourquoi ? Parce que ça lui donne l'impression d'être important. Chaque année, pendant une journée, il devient une grosse légume dans ce petit monde. Et même le duc d'un tel lui tape sur l'épaule et essaye de se souvenir de son prénom quand il lui dit au revoir. Mon père a tendu la main pour gratter son plâtre juste au-dessous de son genou gauche. Ça démange, m'a-t-il dit. La paume gratte sous le plâtre, alors je frotte le plâtre en faisant semblant de gratter la peau.
Ça t'aide ?
Non, ça aide pas du tout. Mais écoute, Danny.
Oui, papa,
je veux te dire quelque chose. Il a recommencé à gratter son plâtre et j'ai attendu qu'il poursuive. Je veux te dire ce que j'aimerais vraiment faire, et tout de suite. Nous y voilà, j'ai pensé. Quelque chose d'énorme et de complètement fou se prépare. Il me suffisait de regarder son visage pour savoir à quel moment quelque chose d'énorme et de complètement fou se préparait. C'est un secret absolu, Danny. Il s'est interrompu et a regardé soigneusement autour de lui. Même si en cet instant, il n'y avait sans doute personne à 3 kilomètres à la ronde, il s'est penché tout près de moi et a baissé la voix, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un murmure.
« J'aimerais, » a-t-il chuchoté, « trouver un moyen de braconner tellement de faisans dans les bois de Hazel qu'il n'en resterait plus pour le grand jour de l'ouverture de la chasse, le 1er octobre. »«
Papa !» me suis-je écrié. « Non !»
a-t-il répondu, « écoute-moi. Si seulement je trouvais le moyen de supprimer 200 oiseaux d'un coup, alors la partie de chasse de Mr. Hazel serait le plus grand ratage de l'histoire.
200 ? C'est impossible !
Imagine, Danny, a-t-il poursuivi, quel triomphe, quelle victoire éclatante ce serait. Tous ces ducs, ces lords, ces hommes célèbres arriveraient dans leurs grosses voitures et Mr. Hazel s'avancerait vers eux en plastronnant comme un paon pour les accueillir et leur dire des choses du genre
« Il y a plein d'oiseaux pour vous cette année, Lord Thistlethwaite !»
Et
« Oh, cher Sir Godfrey, c'est une magnifique saison pour le faisan, vraiment magnifique !»
Et ils partiraient tous avec leurs fusils sous le bras et ils prendraient position tout autour du célèbre bois. Et dans le bois, toute une troupe de rabatteurs payés par Hazel commencerait à crier en battant les broussailles pour pousser les faisans vers les fusils qui les attendraient. Et alors, écoute bien, il n'y aurait pas un seul faisan, où que ce soit. Et le teint de Mr. Hazel serait plus rouge qu'une betterave cuite. Ça serait pas la chose la plus fantastique, la plus merveilleuse qu'on puisse imaginer, Danny.
Mon père s'était tellement échauffé en me racontant tout ça qu'il s'est levé, a descendu en boitillant les marches de la roulotte et s'est mis à faire les 100 pas devant moi.
« Hein ? Tu ne crois pas ? »
s'est-il écrié.
« Ce ne serait pas magnifique ?
Si ? » ai-je répondu.
« Mais comment faire ? Comment s'y prendre ?
Il n'y a aucun moyen, papa.
C'est déjà difficile d'attraper un oiseau dans ces bois, alors 200 ! »
« Je le sais bien. Ce sont les gardes-chasse qui font que c'est si difficile.
Il y en a combien ?» lui ai-je demandé. « De gardes-chasse ? »
« 3. Et ils sont toujours là. »
« Ils restent toute la nuit ? »
« Non, pas toute la nuit. »
Ils retournent chez eux dès que les faisans sont perchés en toute sécurité dans leurs arbres. Mais personne n'a jamais trouvé le moyen d'attraper un faisan dans un arbre. Même pas mon propre père, qui était le plus grand expert du monde.
« C'est l'heure d'aller te coucher, » a-t-il ajouté. « Vas-y, et je viendrai te raconter une histoire. »